Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio, comme toujours. Aujourd'hui, une bulle d'histoire un peu particulière, puisque c'est une bulle d'histoire musicale. On entendait un solo de trompette de Louis Armstrong dans Money Blues, quand il jouait avec le groupe de Fletcher Anderson. On a entendu cette musique parce que je suis avec Léo Heitz, qui a publié il y a quelques semaines un album absolument génial qui s'appelle Satchmo, qui est une biographie relativement imaginaire de Louis Armstrong. Bonjour Léo, je suis vraiment ravi de vous avoir au bout du fil.
Ben bonjour, bonjour Stéphane.
Première question qui ouvre toutes mes bulles d'histoire, qui êtes-vous ?
Alors, je suis qui ? Je suis ce qu'on peut appeler un jeune auteur, mais enfin, si vous considérez que 32 ans c'est jeune. Et un jeune auteur de bande dessinée qui a commencé la bande dessinée sur le tard. Je suis rentré en école de bande dessinée à Strasbourg, à l'iconographe vers 25-26 ans. Et là, en fait, j'ai fini ma formation et j'ai publié ma première BD en octobre 2021. Avant l'école de bande dessinée, j'avais fait un parcours complètement différent puisque j'avais fait une école de commerce avec une prépa et tout ça. Donc, mais ça n'avait pas trop matché entre elle et moi. Et, d'ailleurs, je suis pas diplômé, mais et du coup, j'ai changé complètement de voie et j'ai fait de la bande dessinée assez sur le tard. Et j'ai appris à dessiner à cette époque-là, quoi. C'était pas une passion de jeunesse tout ça, mais avec le temps, mon idée de vie a mûri et je me suis mis à faire de la BD, un métier créatif, quoi.
Et parce que votre style est très très reconnaissable, voilà, c'est aussi une force de l'album que j'ai sous les yeux en ce moment. Quelles sont vos influences?
On va dire que on a plusieurs styles, enfin les autres, chaque auteur a plusieurs styles, c'est dessiné de plusieurs façons. Là, j'ai choisi ce style, on va dire, parce que ça me faisait penser un peu au vieux Disney. Au vieux Disney avec Mickey, hein, tout ça, mais c'était des grosses masses de noir avec quand même un trait qui peut être très fin à des moments. Et j'aimais bien ce style parce que déjà ça renvoyait à une époque un peu passée. Et j'aime beaucoup la rondeur dans le dessin, moi, la rondeur et la simplification aussi du dessin. Je trouve ça toujours intéressant de trouver des codes graphiques qui sont très clairs et très très marqués. Et on va dire que voilà, l'inspiration première, c'était les vieux Walt Disney, puis ensuite aussi tous ceux qui ont fait des BD sur les rats. Alors il y avait Tiluc, Jeannot, j'en oublie d'autres. Et puis sinon, au niveau plus du cadrage, de la façon de dessiner une case, j'aime beaucoup Black Sad, des choses comme ça, Tyler Cross. Enfin voilà, des auteurs comme ça. Enfin, Tyler Cross, Bruno, je veux dire.
Donc des bonnes références. Puis parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette histoire de Satchmo, elle est racontée non pas avec des humains, mais avec des souris et des rats, ouais. Ou que des rats. Rats, on va dire. Voilà. Ouais. Pourquoi avoir, donc au-delà du Disney, est-ce qu'il y a une autre raison pour avoir raconté cette image uniquement avec des animaux et pas avec un seul être humain? Et que des souris et que des rats, d'ailleurs. Il n'y a pas de chien, de chat, de choses comme ça.
Non, c'est des petits animaux avec des grandes oreilles et un petit nez, quoi. Mais en fait, j'ai toujours créé mes histoires comme ça. Depuis l'école de BD, en fait, j'ai toujours mis des petites souris ou des rats à la place des humains parce que je ne sais pas, ça me permet de prendre la distance un peu avec ce que je raconte, quoi. C'est plus facile, je trouve. C'est plus léger, c'est plus... Ça permet aussi une attraction, une certaine attractivité. Déjà, on se demande qui sont ces personnages, dans quel univers ils vivent. Et puis aussi, c'est purement par choix esthétique, quoi. Moi, je trouvais que j'ai du mal à dessiner les humains et je suis plus à l'aise pour dessiner des têtes de souris ou de rats, très simplifiées comme ça. Et c'est aussi un choix graphique, quoi.
C'est paradoxal parce que même si vous avez du mal à dessiner des humains, moi je trouve que vos souris et vos rats, ils sont vraiment très très expressifs. Il y a les mêmes expressions que si c'était des humains. Voilà, il y a la peur, l'envie, la colère. Enfin, il y a toutes les expressions qui se dessinent sur les
oui,
visages des souris.
Mais quand on a envie de dessiner quelque chose, en général, on y arrive mieux que quand on n'a pas. Et moi, c'est un peu le cas. Genre, je sais que mon éditeur là me demandait des tests avec des humains, mais je suis pas trop chaud, quoi.
L'autre chose qui est très charmante et très séduisante dans votre album, c'est qu'il y a une lumière et une couleur un peu sépia qui baigne toutes les pages. Ouais. Sauf à un moment, les seules taches de couleur sont des taches de sang. Donc des taches rouges, et à la fin il y a un album de Louis Armstrong un disque qui est dessiné en couleur. Mais aussi, pourquoi avoir choisi une teinte sépia uniforme sur toutes les pages?
Alors déjà, bon, pour la couleur, je tiens à remercier mon colocataire et coloriste et ami Christopher Gangloff qui m'a aidé pour faire la couleur de cet album. Et à la base, j'avais choisi ça parce que j'avais fait une petite BD de 3 pages qui avait été sélectionnée au Festival d'Angoulême. Et ça avait bien marché, ce genre de sépia. Et là, c'était parfait pour l'histoire, quoi, parce que on est dans les années 1900-1910. Et donc, c'était totalement raccord avec l'époque. Et puis, pareil, esthétiquement, je trouvais que ça dénotait avec ce qu'on voit aujourd'hui en couleur, où ça explose de partout, que ce soit sur Internet ou dans les nouveaux albums. Moi, je voulais faire un truc très, très simple et qui laisse de la place pour l'histoire et le récit, quoi.
C'est très simple, mais quand on regarde notamment les grandes cases, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une grande subtilité de teinte. Même si tout a l'air sépia, il y a une infinité de sépia dans la...
Oui, oui, bien sûr.
La colorisation est vraiment remarquable, hein. C'est beaucoup pour la qualité de l'ensemble. Et je trouve que la couleur est vraiment là aussi un moteur de l'histoire, c'est intéressant ça.
Ouais, ben c'est vrai, mais après c'est venu assez naturellement, hein. Je ne me suis pas posé 300 000 questions par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai souvent des bons retours sur la couleur, alors que honnêtement je pensais faire un truc justement viser la chose la plus cohérente et la plus efficace sans me dire que j'allais faire des trouvailles esthétiques extraordinaires, quoi.
Non, mais ça va bien ensemble.
Ouais.
Alors, donc, le titre de l'album, c'est Satchmo. Donc, Satchmo, on sait que c'est le surnom de Louis Armstrong. Pourquoi avoir choisi de raconter la jeunesse de Louis Armstrong?
Parce qu'en fait, j'ai lu, quand j'ai fait ma BD, quand j'ai me suis documenté sur mon travail sur cet album, j'ai lu Ma vie à la Nouvelle-Orléans, qui est l'autobiographie d'Armstrong. Qu'il a écrite lui, et en fait pendant tout le long, toute la première partie de sa autobiographie, ça parle de son enfance, et je trouvais que c'était presque le plus intéressant et le plus coloré, et je trouvais que lui, enfant, c'était ce qu'il y avait de plus, je sais pas, qui me touchait le plus en tout cas. Et donc c'est vrai qu'il y a une grande partie où il est enfant, puis j'adore les personnages enfants, que ça soit pour le design du personnage ou alors pour ce qu'ils peuvent raconter, j'aime beaucoup. Je pense qu'à l'avenir, je vais pas mal faire de personnages dans l'enfance et surtout dans leur apprentissage de la vie, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'enfance de Louis Armstrong pour qu'on se plonge dans le début de l'histoire?
Oui, l'enfance de Louis Armstrong dans mon histoire ou dans la sienne?
Alors, on va commencer dans la sienne et après, on va passer dans la vôtre parce qu'il y a plein de différences. C'est ça qui est aussi qui m'a intéressé.
Dans la sienne, en fait, je sais que c'était un petit garçon qui était élevé par sa grand-mère. Et sa maman avait pas mal de problèmes, il me semble, parce qu'évidemment, elle travaillait pour des Blancs, ou comme dans ma bande dessinée, elle faisait la retape dans la rue. Et c'est vrai que que dans ma BD, oui, il vit pas avec sa grand-mère, il vit avec sa maman. Il essaye de la sortir de, justement, de sa vie qui est décadente et qui est très dure. Et je crois que dans sa vie, dans sa vraie vie à lui, Louis Armstrong, il avait une enfance qu'il considérait quand même heureuse, hein, très heureuse, même s'il vivait dans des conditions difficiles. Il avait la musique, ses amis, il avait aussi les musiciens de la Nouvelle-Orléans qui prenaient un peu lui et son groupe sous leurs ailes. Et donc je crois que lui, de toute façon, il a un caractère assez joyeux et heureux de base, ce qui n'est pas le cas de mon personnage, que j'ai fait beaucoup plus dramatique et dur sur l'homme, quoi.
Oui, parce que vous racontez une histoire vraiment très très noire. Il y a donc beaucoup de différences avec la vie de Louis Armstrong. Là, ce que vous racontez, c'est un peu la vie d'un jeune noir dans le sud des États-Unis dans ces années-là.
Ouais, c'est ça. Et c'est en fait, je voulais pas non plus faire un mélodrame et partir dans des choses que je connaissais pas. Moi, j'ai voulu juste faire un personnage qui était obsédé par une idée, qui était de sauver sa mère. De sa vie de sa vie décadente et qui était aux prises de proxénètes et de gangsters du coin donc je voulais faire un personnage qui pouvait avoir les armes de combattre tout ça et donc c'est vrai que c'est un petit garçon qui est quand même qui est très déterminé, quoi. Voilà, je voulais faire un personnage déterminé, c'est ça, déterminé à s'en sortir, déterminé à sortir sa mère, quitte à exploser en plein vol, quoi.
Oui, parce que là aussi, ce que j'ai trouvé qui mène à réflexion, c'est que votre personnage à vous, c'est que la musique, c'est évidemment très important pour lui, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est un moyen de sauver sa mère, et c'est pas un moyen pour lui de se sauver ou de se tirer de sa condition.
Voilà, c'est ça, exactement. Ben, là, vous avez tout dit. C'était non, mais c'est pas une BD sur la condition humaine et s'en sortir et tout ça. Enfin, un petit peu évidemment, mais c'est plus sur l'obsession et la détermination de quelqu'un qui a pour lui évidemment le talent de musicien et tout ça. Mais c'est vrai que ça, par contre, c'est très différent de la vie de Louis Armstrong, à mon avis. Enfin, je peux pas parler à sa place, mais lui, pour lui, la musique, c'est son âme, c'est sa vie, il vivait pour ça. Moi, dans ma BD, il vit au travers du problème qu'il a avec sa maman, et c'est ça qui le motive et qui est le moteur de l'histoire, quoi.
Oui, parce que ça va le conduire, votre personnage, ça va le conduire en prison, il va prendre des risques insensés, il joue avec sa vie plusieurs fois. Parce qu'il veut tirer sa mère des griffes d'un proxénète qui est assez sanguinaire, je dois dire.
Oui. Bah, à l'époque, c'était de toute façon, il y a plusieurs choses. C'est qu'à l'époque, à la Nouvelle-Orléans, c'est vrai que ça rigolait pas trop, quoi. Ça jouait vite du flingue et ça, les gens se butaient dans tous les sens. Et c'était pas drôle, quoi, comme époque. Et puis quand on était une maman noire à l'époque qui était sous l'emprise de l'alcool et la drogue, c'était encore moins rigolo. Et Louis Armstrong, pareil que dans ma BD, ça c'est un truc que j'ai sorti de son autobiographie et de sa biographie, c'est qu'il a fait de la prison, enfin de la prison. C'était pas de la prison, mais c'était un centre de redressement pour jeunes gens de couleur, comme c'était dit à l'époque. Et il a fait ça quelques années. Il y retournait plusieurs fois d'ailleurs dans ce centre. Et c'est là aussi qu'il a appris, il me semble, le cornet et la trompette, si je dis pas de bêtises. Il a dû l'apprendre de différentes façons, mais je sais qu'il avait notamment un professeur qu'on retrouve dans ma bande dessinée qui s'appelait Davis, et qui lui a appris les fondamentaux, qui l'a fait progresser énormément en cornet et en trompette.
Parce que dans votre BD, ça aussi c'est intéressant, c'est qu'il y a des va-et-vient entre la réalité et la fiction. Donc, il y a ce personnage qui est un personnage réel. Mais après, on va parler d'autres. Il y a les clubs de jazz à Chicago. Il y a des personnages que vous avez appelés autrement, mais qui sont là, voilà, qui sont des grands chefs d'orchestre. Comment vous avez choisi, comment vous avez cheminé entre la réalité et puis votre désir de raconter une fiction?
Alors, moi, je pense que j'ai mis un peu de temps pour débroussailler tout ça. Mais c'est vrai que l'histoire à la base était écrite dans les grandes lignes en entier avant que je me documente, parce que pour avoir une cohérence, je pense, dans l'histoire, il faut quand même que tout sorte d'abord de l'auteur et qu'ensuite on aille piocher à droite à gauche, parce que sinon ça fait bricolage quoi, ça fait on veut mettre cet épisode, on veut mettre cet épisode. Là c'était quand j'en avais besoin, quand ça se rapprochait de mon histoire, ah je me disais, je lisais, je me documentais, je dis, ah ça c'est pas mal, et du coup j'injectais du réel dans la fiction, mais je l'ai fait vraiment à petite dose, et puis je suis des fois allé avec des grosses papates quoi, genre j'ai modifié la réalité, je faisais pour servir l'histoire quoi, je faisais pas pour coller vraiment à la réalité et tant pis quoi, tant pis tant pis si ça des fois ça dévie de la réalité, c'était pas le propos, c'était pas de raconter la vie de Louis Armstrong.
Est-ce que les puristes de Louis Armstrong ou de l'histoire du jazz vous ont reproché ça?
Justement, moi j'avais un petit peu peur, puis mon éditeur me rassurait à propos de ça, parce qu'il me disait, mais t'es un auteur, tu fais ce que tu veux. Et puis, moi c'est vrai que je voulais pas non plus salir l'image ou quoi que ce soit, évidemment. Mais non, la plupart des gens que, par exemple, là, j'ai eu en dédicace et qui connaissent bien mieux que moi la vie d'Armstrong, tout ça, c'est marrant parce qu'ils trouvaient que c'était une interprétation très originale, du coup. Et non, j'ai pas eu de gens qui sont offusqués de tout ça. Parce qu'en fait, ils perçoivent très vite que c'est différent. Ils perçoivent très vite que c'est différent et c'est plus un jeu de repérer ce qui est vrai, ce qui est fictionnel, quoi. Et de toute façon, vous voyez bien qu'il y a aucune insulte à Louis Armstrong, hein. C'est vraiment un personnage qui est différent et j'emprunte quelques éléments de la vie d'un jeune garçon de l'époque. Pour que l'histoire s'ancre et soit crédible, quoi.
Oui, tout à fait. Oui, c'est effectivement c'est un jeu de repérer les choses vraies ou pas vraies. Moi, je me suis replongé dans une biographie pour voir parce que quand on lit votre album, on se dit effectivement ça aurait pu se passer comme ça. Quand on voilà, bon, ouais. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça aurait pu. Quand on connaît un peu l'environnement du sud des États-Unis au début du siècle, c'est probable. C'est ça qui est intéressant aussi.
Et puis même, comme vous dites, ensuite, quand c'est plus loin dans l'histoire, quand ils sont à Chicago, le restaurant, le Green Mill, qui était un restaurant, un repère de mafieux italiens de l'époque, tout ça, je l'ai repris aussi de la vie réelle. Mais par contre, je sais même pas si Louis Armstrong a joué là-bas. Hein. C'est vraiment ça. C'est, vous voyez, je mélange un peu. Mais par contre, ça rend crédible l'histoire aussi dans les décors. Hein. Dans les décors, tout ça, je me documente avec des photos, des tout. Et pour moi, c'est très important parce que la crédibilité amène de l'immersion dans une histoire. Et l'immersion amène, c'est le terreau du plaisir qu'on peut trouver dans une histoire, quoi, ou de l'intérêt qu'on peut y trouver.
C'est parce que dans tous les personnages véritables qui peuplent votre album, il y a ce fameux Papa Joe, où il n'y a pas de Papa Joe dans la vie d'Armstrong, en tout cas de Papa Joe célèbre, mais il y a des chefs d'orchestre comme ça, très, très célèbres. Il y a Fletcher Anderson, il y a Guido Horry qui l'ont un peu cornaqué, qui lui ont donné leur chance.
Ouais, le Papa Joe, c'est peut-être que ouais, justement le nom était trop éloigné, mais c'était King Joe Oliver.
Ouais.
Et lui, c'était, il me semble, un des premiers à avoir accompagné le petit Louis Armstrong dans sa carrière de jazzman. Et lui, c'était un musicien très connu en Nouvelle-Orléans, mais c'était au début du jazz, lui. Vraiment, c'était au début du jazz. Et ensuite, il l'a amené dans son band à Chicago. Donc, King Joe Oliver, ouais, c'était un peu un mentor pour Louis Armstrong. Et justement, ça, il le raconte dans son autobiographie. Et moi, j'aimais beaucoup ce personnage. Alors, physiquement aussi, ce qui est trompeur, c'est qu'il ne ressemble pas du tout à ça. Dans mon histoire, c'est un grand type qui fait très élégant, avec des cheveux grisonnants. Dans la vraie vie, je crois qu'il n'a pas tellement cette allure. Enfin, il est très élégant aussi, mais il n'a pas tellement cette allure.
Oui, donc il y a ce seul orchestre et donc il y a aussi le Green Mill. Alors j'ai quand même regardé, il semble que Louis Armstrong ait quand même joué au Green Mill.
Ah ok, bah, très bien, bah, parfait. Vous voyez, des fois je retombe sous mes pattes sans le faire exprès.
Oui, donc ce Green Mill qui existe toujours d'ailleurs, hein, toujours un club de jazz, c'est toujours un bar, c'est toujours un café. On peut toujours aller écouter de la musique là-bas, il y a aussi des concours de poésie. Comment vous êtes tombé sur ce club de jazz et qui est aussi... Effectivement, pendant la Prohibition, un club où on pouvait rencontrer tous les grands mafieux, Al Capone et
voilà, c'est ça.
De l'époque.
Ben, c'est pour ça, en fait, je cherchais, surtout pour dessiner, en fait, pour dessiner. Mais à quoi pouvait ressembler ce genre de... En fait, déjà, la taille du bar, la taille de comment était disposé le public quand il regardait les concerts de jazz. Enfin, c'était plus pour la documentation visuelle. Et puis, donc, je cherchais, et puis, je cherchais un truc pas trop imposant, quoi. Je voulais pas. Et donc, j'ai commencé à voir des photos et j'ai direct vu l'enseigne du Green Mill. Je trouvais que le nom était marquant. Je me suis renseigné. J'ai vu qu'en effet, c'était un bar, restaurant, salle de concert détenue par les mafieux de l'époque. Et voilà, ben, typiquement un exemple, ça collait à mon histoire. Et je me suis mis à renseigner dessus et je l'ai choisi celui-là, quoi. Il y en avait d'autres qui étaient en concurrence.
Non, celui-là, il est très très bien. Dans toutes les réalités que vous décrivez, il y en a une qui est importante. C'est le premier disque de jazz qui a été enregistré. Et effectivement, c'est un disque de jazz qui sort en 1917. Donc là, vous êtes un petit peu avant, mais ça, c'est pas très grave. Et là aussi, c'est un disque qui est enregistré par des blancs et pas par des noirs. Ce que vous racontez. Ou à la moitié à peu près non, tout début de l'album d'ailleurs.
Ben ça c'était un peu ça c'est le fil conducteur un petit peu de l'histoire qui est on va dire qui est en souterrain et c'est un peu la deuxième intrigue de l'histoire. Il y a l'intrigue par rapport à la maman du héros et il y a l'intrigue par rapport à l'histoire de la musique quoi et du jazz et il y a effectivement dans l'histoire réelle un groupe de blancs qui s'appelait je sais plus exactement, le Dixieland Jazz Band ou
c'est ça, oui, c'est
l'original Dixieland et eux qui ont eu l'honneur d'enregistrer pour la première fois un disque de jazz et alors que ce qui était problématique dans cet enregistrement, parce que j'ai trouvé quand j'ai lu des articles dessus, ça c'était qu'ils se prenaient un peu pour les, ils se vendaient un peu comme pour les comme les créateurs du jazz, quoi. Et ça c'est un des exemples de l'appropriation culturelle qui est assez dérangeante dans l'histoire et le conflit qui a pu avoir entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Et je trouve que bon, c'était un élément que moi je connaissais pas avant de faire mon histoire et que je trouvais intéressant de remettre et voilà qui fait partie des éléments dans l'histoire qui montrent la difficulté d'être un noir à cette époque-là, quoi.
Oui, puis ça va continuer jusqu'au rock et à la fin des années 50. D'ailleurs, cette espèce de ségrégation. Oui, effectivement, le premier disque de jazz donc, est enregistré par l'original Dixieland Jazz Band. Et il me semble bien que ce sont d'ailleurs des musiciens irlandais, en plus, qui jouent dans ce band. Ça, c'est intéressant.
Et petite anecdote d'ailleurs sur ce disque à vérifier, mais j'avais lu des articles en anglais. Alors moi, je suis pas un très, je suis pas bilingue, mais j'avais essayé de traduire ça et je sais qu'ils avaient eu des, ils ont, un autre groupe de blancs leur avait collé un procès pour dire que c'était eux qui avaient créé en premier cette musique-là. Et ironie de l'histoire, donc le procès a eu lieu et au final, en fait. Le juge a statué que personne ne l'avait créé puisque c'était considéré comme un vieux son, une vieille musique justement originaire de la musique noire et que c'était un peu qu'il n'y avait pas de copyright à avoir là-dessus et que c'était donc ironie de l'histoire, personne n'a eu gain de cause et les deux groupes de blancs qui se battaient pour les droits sur ce disque-là. On était tous les deux déboutés, quoi.
Bah, oui, c'est logique, c'est heureux.
Ouais, c'est vrai.
On a beaucoup parlé donc de Satchmo, qui est vraiment un album remarquable, qui peut s'écouter aussi en écoutant des vieux disques de Louis Armstrong. Il y en a plein sur YouTube. On a presque fini notre émission. Est-ce que vous pouvez me parler de vos projets? Qu'est-ce que vous avez comme projet, comme album qui sont en préparation, soit qui sont en fabrication ou qui vont bientôt sortir?
Alors, un projet album, là, je suis en train de réfléchir à des histoires que je pourrais écrire pour des amis qui sont auteurs, qui sont dessinateurs. essentiellement. Alors, je peux pas trop en parler parce que c'est. Mais c'est vrai que là, j'aimerais bien lancer une BD qui a rien à voir, qui serait beaucoup plus humour et peut-être humour un peu avec comment dire érotique, une BD érotique humour, mais de façon très barrée, très léger, très colorée. Mais je serai pas au dessin. C'est juste pour m'amuser et partir sur complètement autre chose. Et sinon, y a d'autres amis auteurs qui m'intéressent beaucoup par leur dessin et tout ça. Donc, j'aimerais bien leur créer des histoires, mais tout ça, c'est encore très vague. Et sinon, là, je suis en train de créer une galerie NFT. Je sais pas si vous connaissez bien le principe et tout ça, mais voilà. Et je vais tenter l'aventure là-dedans pour pouvoir vivre un peu de mon dessin. Et donc, ça prend du temps. Voilà, je travaille avec un membre de ma famille sur ça et je suis en plein dans ça, donc je vais voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, les albums en tant qu'auteur complet, dessinateur, je fais une petite pause là pour l'instant et puis j'attends de trouver un nouveau sujet qui me passionne et repartir là-dessus.
Ça, c'est intéressant, l'NFT, parce que sur Art District, il y a d'autres émissions, d'autres chroniques sur le marché de l'art et l'art contemporain. Comment ça peut fonctionner, le NFT, dans la bande dessinée, dans l'illustration? Ce que vous pouvez me définir un peu plus tard?
Dans la bande dessinée, je sais pas trop. À vrai dire, c'est assez nouveau pour moi là. Ça fait vraiment juste, on va dire quelques mois que j'y réfléchis et quelques semaines que j'y suis dessus. Mais dans la bande dessinée, je sais pas trop. Je sais que en termes de ce que je peux faire moi, c'est-à-dire avec le style de dessin que j'ai, et c'est-à-dire créer des personnages, créer des ambiances, créer des machins, c'est vrai que il faut arriver à suivre des tendances pour que ça puisse marcher. Notamment là, il y a la création d'avatars qui marche bien, la création enfin, c'est des choses qui peuvent être très simples comme ça, mais qui demandent quand même un gros travail graphique et qui me plaît bien, qui est beaucoup plus léger que construire une bande dessinée. Et comment ça peut marcher pour un auteur de BD? Ben voilà, moi, ce serait plus dans la création de personnages, la création de choses comme ça. Après, j'imagine qu'on peut vendre des planches de BD, NFT et tout ça, mais je pense pas que ça prenne trop ça. Moi, je pense qu'il faut rester assez simple et suivre les tendances du moment. Et bon, ça, c'est pour que ça marche. Moi, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est une galerie de dessins, une galerie de personnages qui sont beaucoup plus personnels. Et voilà, c'est comme si j'avais une galerie dans la vraie vie, sauf qu'elle est sur Internet, quoi.
Et pourquoi des NFT et pas des dessins en traditionnel?
En physique, parce que justement, je fais mes. Moi, les NFT, ce qu'il y a de bien pour un auteur comme moi, c'est que je travaille pratiquement uniquement sur tablette graphique. Donc, je n'ai pas d'originaux, par exemple, pour ma bande dessinée. Donc, c'est pour moi, en tant qu'auteur, ben, on va dire numérique, c'est une opportunité qui s'ouvre et on peut pas trop la laisser passer parce que c'est vrai que en tant que jeune auteur de bande dessinée, les ressources financières sont pas très élevées, quoi. Donc il faut diversifier son travail. Et puis ça, c'est une galerie jetée à la mer, quoi. C'est une galerie qui est ouverte pour tout le monde et on verra bien ce que ça donne, hein. Je suis pas un spéculateur et un fanat de l'argent, hein. C'est juste pour avoir divers moyens de se faire connaître, divers moyens de revenus. Et puis aussi, c'est un challenge graphique, hein. Moi, c'est un challenge graphique, je le vois vraiment comme ça.
Léo, je vous remercie beaucoup de ces minutes passées avec moi. C'était passionnant. Surtout maintenant, bah, il faut acheter et lire votre bande dessinée. Donc, je vous rappelle, le titre, c'est Satchmo. Vous êtes à la fois au dessin et au scénario. C'est publié par les éditions Jungle dans la collection Ramdam. C'est vendu au prix de 19,95 € et je crois qu'il y a 182 pages. Donc, c'est un gros volume absolument passionnant. On va finir en musique parce qu'on va écouter un autre morceau de Louis Armstrong. Il joue avec le Hot Five et c'est un extrait de EBGB qui est un des grands classiques des années 20 de Louis Armstrong. Merci beaucoup Léo et je vous dis à
Merci.
bientôt.
Merci beaucoup et merci à tous.
Bulle d'histoire. Hein ? Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.